difficile de parler de David sans faire allusion à Saül, puisqu'en fait, Saül va pourrir la vie de David pendant des années. Donc, on est obligé de se rappeler un peu qui était Saül, comment il a pris la pente descendante, etc. Avant d'aborder la vie de David, il va faire partie intégrante de la vie de David pendant des années. Donc, on ne peut pas tellement les séparer. Et de même pour Samuel, puisqu'en fait, on avait commencé il y a 3 ans avec la vie de Samuel. Et puis, la vie de Samuel était intimement liée avec celle de Saül, et pour cause, puisqu'il l'a accompagné dans la royauté, dans ses premières années, etc. Et puis, après, Saül et David. Donc, en fait, on continue de façon chronologique une histoire. C'est rare qu'on puisse le faire, mais là, Samuel, Saül, David, ça tombe sous le sens, donc on est obligé de continuer comme ça. Alors, on en était au fait que Saül a commencé à désobéir à Dieu. En gros, il avait pris les choses en main, sans s'occuper. Il avait fait les sacrifices lui-même, ce qui était parfaitement interdit, il le savait très bien. C'est-à-dire, je prends les choses en main après tout, voilà, je suis le roi, je fais ce que je veux, c'était un petit peu ça. La faute a fait que Samuel lui a dit, écoute, avec un comportement comme ça, tu ne pourras pas fonder de dynastie royale, c'est-à-dire ton fils ne sera plus roi, tu ne vas pas fonder de dynastie royale, ce qui aurait dû se produire normalement, puisque c'était le premier roi sur Israël. Et il lui dit déjà là, Dieu va choisir un homme selon son cœur. C'est important la différence. Saül était vraiment un roi selon le cœur du peuple. Il avait été demandé par le peuple. Là, Dieu dit, je choisirai un homme selon mon cœur. Son fils Jonathan, qu'on commence, lui aussi, sa vie va être liée à celle de David, remporte des grandes victoires. En fait, c'est une famille de bons militaires, de bons stratèges. Et alors que Jonathan vraiment sert le Seigneur de tout son cœur et obéit, on voit que son père, Saül, commence à descendre à la pente. Avec cette première désobéissance, c'était le premier point. Mais ce qui est rassurant et qui corrige un peu l'image qu'on peut avoir de Dieu de temps en temps, c'est que, d'accord, ça l'a empêché de créer une dynastie, mais Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Et ça, c'est formidable. On peut faire des grosses bêtises. C'est pas pour ça que Dieu nous abandonne. Et ça, c'est précieux de se rappeler que Dieu ne nous abandonne pas comme ça. Donc, il n'abandonne pas Saül, il garde son alliance avec Saül. Mais Saül, de son côté, il empire. Il se fait accompagner par un prêtre d'une dynastie qui n'était plus en ligne du tout avec le Seigneur. On va voir qu'il se soucie plus de savoir qui a engagé la bataille, par exemple, dans le cas de Jonathan, plutôt que de rechercher Dieu. Il va demander aux soldats de jeûner un jour de bataille. Non mais je rêve, un bon stratège comme ça. Il leur demande de jeûner un jour de bataille, à tel point, mais son fils n'était pas au courant, donc son fils, lui, va manger. Et il avait dit, maudit soit l'homme qui mangera avant le soir. C'est ça qu'on appelle un vœu insensé. Insensé. Du coup, son fils avait mangé, il avait trouvé du miel dans la forêt, il en avait fait manger aussi à ses soldats, ce qui leur avait permis d'avoir la victoire d'ailleurs. Mais il ne regarde pas ça, parce que lui, il est attaché au rituel. De plus en plus, il va s'attacher au rite. Il faut faire ça comme ça, et puis comme ça, Dieu sera avec nous. Si on a l'arche, si on fait un sacrifice, si on jeûne, si on fait des vœux, alors comme ça, on est sûr que Dieu sera avec nous. C'est sûr que c'est plus facile. Je pense que certaines religions sont plus simples que d'autres, dans la mesure où ils disent, t'as qu'à faire ça, ça, ça et ça, et voilà, tout est gagné. C'est tellement plus facile, et c'est la tendance naturelle de l'être humain. Si je fais ça, ça et ça, j'ai la bénédiction de Dieu, je suis protégée, j'aurai pas de problème. C'est la petite amulette, c'est la dent de requin ou je ne sais quoi, qui vous assure la protection. Des trucs simples, comme ça, matériels, visibles. Ce que Dieu demande, c'est pas du tout ça. C'est une relation, c'est une écoute. Et parfois, il nous demande même de chercher Dieu. Déjà, quand on perd quelque chose, qu'est-ce qu'on râle quand on cherche ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me fait vraiment râler quand je cherche quelque chose. Ça m'arrive souvent en plus. Ce n'est pas marrant. Alors, chercher Dieu, ce n'est pas simple. Pas toujours. L'écoute, oui, la repentance. Oh ! Vous savez, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que nous, tous les humains, on préfère se culpabiliser que de se repentir. Et ça, c'est rigolo quand même. Mais c'est une tendance naturelle de l'être humain. On va se taper dessus, on va se mortifier, mais dire « j'ai mal agi, Seigneur, je suis désolée, j'ai très mal agi, je te demande pardon », oh là là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que c'est franchement plus simple. Mais l'être humain est curieux, hein. Préfère se mortifier. Ouais, je suis comme ça, et puis je n'ai pas changé, et puis je fais toujours des bêtises, et puis. Mais voilà, ça peut durer des années comme ça. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai mal agi là, et puis, Seigneur, je te demande pardon, et je veux vraiment renoncer à ce type de comportement, voilà, tu vas m'aider, etc. Non, on préfère rentrer dans la culpabilité. Du coup, c'est un peu plus difficile. Et Saül, ben, il va rentrer dans cette culpabilité. Saül, au lieu de chercher à obéir, il va s'enfoncer progressivement. Alors, pour faire l'histoire plus courte, hein, on va voir qu'il est de plus en plus centré sur lui. Par exemple, à un moment, il va dire, alors que c'était un excellent soldat, il faisait ce que Dieu lui demandait, il va dire « Je me suis vengé de mes ennemis ». Il ne s'agissait pas de ses ennemis, il s'agissait des ennemis du peuple de Dieu. Et « Je me suis vengé », attention, il n'était pas tout seul. Hein. Est-ce qu'il voulait se racheter par le jeûne, peut-être ? Mais on ne se rachète pas par autre chose que la repentance. Ce même Saül, qui d'ailleurs à un moment avait refusé de se venger de ceux qui l'avaient méprisé, ce qui était remarquable de sa part, à la suite d'une bataille. Hein, il y a quelqu'un qui lui dit, dis donc, maintenant que tu as gagné, hein, allez là, tous ceux qui se sont moqués de toi. Pchit. Non, non, on dit, c'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire. On n'est pas là pour tuer ses opposants, un jour de victoire. Et bien maintenant, voilà qu'il est prêt à tuer son fils parce qu'il a mangé le jour de la bataille. Un vœu insensé. Enfin, tout est de travers là, hein, ça ne va plus. C'est le peuple qui a dû sauver Jonathan. Pourtant, ils avaient eu la victoire. On sent vraiment que le gars, il a changé, il a complètement changé. Il s'endurcit et il va tout le temps chercher la faute chez les autres. Enfin, c'est plus facile, hein. Comme les autres ne sont pas parfaits, on le trouvera toujours. Et lui va manifester ni regret ni repentance. Mais malgré tout, Dieu va garder son alliance avec lui. Il va rester bienveillant et patient. Et il faut faire attention, la patience de Dieu, ce n'est pas qu'elle a des limites. C'est qu'elle est faite pour nous racheter. Elle n'est pas faite pour encourager les mauvais comportements. Il va tout le temps réussir les choses à la force du poignet. On a beaucoup de versets en cette période où dit « Il déploya sa force ». On ne parle pas de Dieu. Mais Dieu, dans sa patience, va lui donner une dernière chance, j'allais dire, une dernière mission. Il lui dit « Voilà, tu vois, ce peuple, les Amalécites, ils ont toujours été d'une cruauté incroyable envers Israël. Ils l'ont toujours attaqué quand il était affaibli. Ils ont vraiment une idée en tête, c'est supprimer ce peuple. Eh bien, tu vas leur faire la guerre pour les faire arrêter, en quelque sorte. » Donc Samuel va trouver Saül pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Et alors j'aime la pédagogie de Dieu. Il en profite pour remettre un peu les choses en place. Je suis sûr que Samuel devait se dire, voilà, j'ai un message à lui donner, là, c'est peut-être, on peut encore le récupérer, Saül. Alors, il est marrant parce qu'il redit les choses dans l'ordre. Il lui rappelle, écoute, c'est moi que Dieu a appelé pour te donner l'onction royale. Tu sais bien qui je suis, hein, en quelque sorte. Tu sais qui est Dieu. C'est celui qui m'a envoyé. C'est celui qui a tout organisé, etc. Il lui dit aussi, tu sais bien qui tu es, toi. C'est important de savoir qui on est. Hein. Tu as été positionné par Dieu à ce rôle de roi. Ton appel, c'est d'être le roi sur le peuple de Dieu. Le peuple ne t'appartient pas. Enfin, il remet vraiment les choses en place. En quelques phrases, il refait le cadre. Et puis, il lui donne sa mission et le pourquoi de sa mission. Par contre, et c'est là le test pour Saül, vous n'emmènerez pas de butin. Ah, alors nous, évidemment, on a une armée qui est salariée. On a du mal à comprendre ça. Mais à l'époque, ils étaient, peut-être ils avaient un peu, ouais, un peu mangé, mais ils n'étaient pas vraiment payés, ils se payaient sur le butin. Hein, quand ils faisaient la guerre... Tout ce qu'ils pouvaient voler, tout ce qu'ils pouvaient récupérer, c'était la loi des armées de cette époque. Et quand Dieu dit, vous n'allez rien garder pour vous, vous allez simplement obéir et chasser et tuer ce peuple qui vit dans la haine depuis des siècles, en fait. Hein, ce n'était pas récent. Oh, là, c'était un problème. Il fallait que Saül explique au peuple que, attention, c'est une bataille uniquement pour Dieu. Nous, on n'aura rien. Pas facile à expliquer. Alors, il y a des gens qui vont excuser Saül en disant, ouais, mais non, il avait tout le peuple à dos, il avait toute l'armée, là, qui était là, ah, quoi. Je vous rappellerai quand même qu'il les a fait jeûner toute une journée pendant une bataille. Quand on est capable de faire ça, on est aussi capable de dire, vous n'emmènerez pas de butin. Je suis désolée. Parce qu'au début, je me suis dit, ah, il avait peut-être une excuse quand même. L'armée devait le regarder avec des yeux ronds. Il pouvait avoir peur. Mais bon, il avait osé les faire jeûner un jour de bataille. Je pense qu'il pouvait se permettre de transmettre la volonté de Dieu. Pas de butin. Évidemment, il a craqué. Il y avait du bétail magnifique. Il y avait certainement de l'or, etc. Et puis, il a gardé le roi, chose qui était absolument interdite. Parce que, à l'époque, ça faisait bien de prendre les prisonniers, surtout quand c'était l'aristocratie locale. Et ils faisaient des marches comme les Romains. Les Romains ont fait ça, les Grecs ont fait ça. Enfin, c'était une habitude. Hein. Dans l'Antiquité, on emmenait le roi. Et puis, il y avait la marche de la victoire. C'est pour ça qu'on a fait des arcs comme l'Arc de Triomphe. Hein. Ce n'est pas spécial à Paris. Hein. C'était déjà chez les Romains, chez les Grecs. Et on passait avec tous ces prisonniers-là. Ça faisait bien quand même. Un roi qui avait enquiquiné la région depuis des années et des années. Il était prisonnier, ça faisait bien. Autrement dit, je fais ce que je veux. Dieu a dit, mais moi j'ai dit autre chose. Dieu avait dit, tout sera frappé d'anathème. Et Saül fait oui. Sauf ce que j'ai envie de garder. Les plus belles bêtes, etc. Avec le prétexte de les offrir en sacrifice, bien sûr. Ce qui était un faux prétexte, parce qu'on mangeait les sacrifices après. Sauf un. Mais dans ce cas précis, c'était un sacrifice qui suscitait des repas d'action de grâce. Donc c'était intéressant. Saül, quand Samuel vient le voir, alors Samuel est informé par Dieu et Samuel crie à Dieu toute la nuit. Il était choqué. Il avait imaginé que là, c'était l'occasion en or pour que Saül se remette sur pied. Il était content. Oh, Dieu lui redonne une occasion. Il ne faut pas louper les occasions que Dieu nous donne. Samuel était vraiment dans les larmes toute la nuit parce que pourquoi il a loupé cette occasion? Et je pense que parfois Dieu est patient avec nous aussi et il nous donne des occasions de revenir, de refaire les choses correctement. Il ne faut surtout pas les louper. Surtout pas les louper. Donc le matin, Samuel doit se rendre auprès de Saül. Il a un message radical, mais il ne va pas le dire tout de suite. C'est là qu'on voit... Vous savez, parfois on lit la Bible un peu rapidement et on ne se rend pas compte de la bienveillance de Dieu. Quand on lit bien doucement, on s'aperçoit que Samuel, il n'y va pas avec le fusil mitrailleur. Hein. Oh, il y va, il met les formes comme c'est pas possible, parce qu'il avait du chagrin. Et à peine il arrive, Saül est tellement content de lui qu'il lui dit « J'ai exécuté la parole du Seigneur, j'ai écouté, j'ai suivi, j'ai amené Agag. » On lui avait dit de rien amener, il s'en vante en plus. J'ai amené Agag, j'ai frappé d'anathème. Et puis, bien sûr, quand Samuel lui dit, mais c'est quoi tout ce bétail que j'entends là? C'est bruyant, hein, le bétail. Ah bah c'est on, c'est le peuple, c'est les autres. Mais Dieu avait dit tout. Ah oui, mais le reste, on l'a frappé d'anathème. Dieu avait dit tout, lui a dit le reste. Combien de fois on joue sur les mots comme ça avec Dieu, quand Dieu nous demande quelque chose? Ah, mais Seigneur, tu sais, les autres, les gens, il faut faire attention quand même. Dieu a dit, mais moi je dis. Mensonge, demi-vérité, justification, accusation des autres. Là, il s'enfonce complètement, Saül. Samuel, il lui tend la perche plusieurs fois. Vous vous souvenez, on a fait ce texte-là l'année dernière. Il va lui tendre la perche plusieurs fois, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Et à la fin, il est obligé de lui donner la sentence. Et on sent que Samuel, ça lui déchire le cœur. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi. Alors là, c'est curieux. Quand il entend ces paroles, il te rejette aussi. Ah là, il reconnaît. J'ai péché. Il n'aurait pas pu le dire avant. C'est marrant que c'est seulement quand il a la conséquence sous le nez qu'il reconnaît qu'il a péché. C'est marrant, quelques minutes avant, il avait tout bien fait. J'ai exécuté, j'ai écouté, j'ai suivi. Si vous reprenez le texte, vous allez voir, c'est impressionnant. Puis là, d'un seul coup, oh, j'ai péché. Mais il se justifie quand même. Mais j'ai écouté le peuple. C'est pas de ma faute. Et c'est là qu'il s'enfonce encore plus. Il dit, écoute, reviens avec moi, honore-moi. Ah ben, voilà autre chose. J'ai péché, je reconnais, tout ce que tu as dit, c'est vrai, mais honore-moi. Ça semble bizarre quand même. Honore-moi, c'est exactement les mots qu'il emploie devant les anciens du peuple. C'est-à-dire, non seulement il va minimiser son péché, mais il va réclamer la compagnie de Samuel pour sa propre crédibilité, pour le regard des autres. Et là encore, on voit Samuel rempli de sagesse. Il a donné la sentence, mais il va quand même y aller. Pas pour l'encourager dans son mauvais comportement, mais parce que Samuel avait le souci d'éviter les troubles de l'ordre public. Il sentait que le peuple allait avoir des problèmes s'il refusait d'accompagner le roi pour le sacrifice. Saül est encore roi et il le respecte. Il va tuer quand même Agag, lui-même, pour obéir aux ordres de Dieu. Mais là, on voit Saül qui s'enfonce comme dans des sables mouvants. Saül s'attache toujours beaucoup plus à la religiosité extérieure, aux apparences, au regard qu'on porte sur lui, à l'opinion du peuple et des notables. Mais l'opinion de Dieu, apparemment, ne le soucie pas du tout. Et c'est ça son problème. Pour Samuel, ça va être un grand sujet de souffrance, de déception. Vous vous rendez compte qu'il avait oint ce jeune roi qui était timide. Vous vous souvenez à l'époque comment il était timide, il n'osait pas trop. Il retournait à sa ferme quand les guerres étaient finies. Enfin, il était rempli d'humilité. Il l'avait vu grandir, il l'avait vu s'affirmer, il l'avait vu gagner des batailles, protéger le peuple efficacement quand le peuple avait été menacé. Vraiment, Samuel, son cœur est déchiré. Mais on avait vu aussi l'année dernière que c'est aussi un sujet de souffrance pour Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu est insensible quand on fait des bêtises comme ça. Et la preuve, c'est qu'il y a ce verset qui dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent ». Ça veut dire s'il y a de la joie quand nous, on se repent, il y a de la souffrance quand on ne se repent pas. C'est clair. Et Dieu souffre quand il voit qu'on s'endurcit et qu'on s'enfonce dans la justification, dans « je fais ce que je veux », etc. Pour Dieu aussi, c'est un sujet de souffrance, de voir Saül s'enfoncer dans ses sables au mouvement. Et c'est vraiment ça, parce qu'à chaque fois qu'il se justifiait, c'est un peu comme s'il sortait son pied du sable au mouvement pour essayer de se tirer. Du coup, quand on l'enfonce, on s'enfonce encore plus profondément, et ainsi de suite. L'auto-justification, la désobéissance, les apparences, ça a vraiment complètement anéanti Saül. Pourtant, jusqu'au bout, il avait un chemin de retour possible. C'est ça, moi, qui me fait mal quand je lis ce texte. On sent que Dieu lui a tout le temps présenté un chemin de retour. Et il est simple, hein, c'est celui qu'on fait au TQP. Quand Dieu nous révèle notre erreur, la repentance, le renoncement, et Dieu nous restaure. Ça a l'air simple comme ça. Mais beaucoup de gens préfèrent rester en la culpabilité. Et Saül va rester en la culpabilité. Vous allez voir qu'après, il est agité par un mauvais esprit. C'est la façon dont le texte le rend. Mais je pense que comme Judas, la culpabilité l'étranglait. C'était invivable. Évidemment. Dieu, de son côté, pense à l'avenir d'Israël et de la royauté. Et il avait déjà préparé un jeune homme. Alors c'est ça qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il maîtrise tout. Et il voyait bien que les choses allaient de plus en plus mal. Il a quand même donné des occasions à Saül pour s'en sortir. Mais il avait déjà préparé la solution. Si Saül décidait de continuer dans ses sables mouvants, il avait déjà préparé un jeune homme. Dieu ne se laisse jamais prendre de court. Et il faut se rappeler de ça quand on vit des choses un peu difficiles, qu'il y a des situations, on se demande comment on va s'en sortir, que ce soit au travail, que ce soit dans différents domaines. Dieu ne se laisse jamais prendre de court. Il est capable de faire des changements de situation qui sont incroyables. Ah, maintenant, j'en ai vu pas mal dans ma vie, dans ma famille, dans les églises que j'ai fréquentées. Je crois que vraiment, on voit des belles choses. Dieu ne se laisse pas prendre de court, heureusement. Il avait prévenu Saül dès sa première faute, mais il avait toujours un plan en cas de problème. Chapitre 13, verset 14, il avait été dit « Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur, et le Seigneur l'a institué chef sur son peuple. » Et ça m'a choqué à l'époque. C'était la première bêtise de Saül. C'était déjà au présent. Il l'a institué chef sur son peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple, n'abandonne pas son alliance, mais il vit dans un éternel présent. C'est ça qui est bizarre avec Dieu. Hein. Parfois, on reçoit des prophéties au présent, on se dit « Moi, je ne vois pas. » Dieu vit dans le présent. Ce qu'il a déjà prévu, pour lui, c'est déjà là. C'est incroyable. Ça m'a frappé. Il l'a institué chef sur son peuple. Il avait préparé un certain David. Et on va relire le début du chapitre 16 pour bien se mettre dans le bain. Parce que notre David, là, on va enfin pouvoir arriver à sa vie. Le Seigneur dit à Samuel, c'est 1 Samuel 16. Le Seigneur dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? L'année dernière, on avait parlé de ce verset en disant combien de choses dans notre vie sur lesquelles on pleure peut-être encore. Et Dieu nous dit, jusqu'à quand ? Allez. Et Dieu dit, moi je l'ai rejeté, il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile, on mettait l'huile dans des cornes, hein, comme récipient, c'était pratique, et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. On va reparler de ce verset. Samuel dit, mais comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. Fallait qu'il aille mal, hein, Saül, quand même, hein, pour arriver à ça. Le Seigneur dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice, je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit, il se rendit à Bethléem. Tiens. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dirent, bienvenue. Il répondit, bonjour, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur, consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Alors, il y a plusieurs problèmes là, il y a des gens qui disent, oh là là, Dieu encourage le mensonge. Non mais Dieu savait très bien qu'il risquait de se faire tuer parce que Saül allait vraiment très mal. Et il était courant, je me suis renseignée, que les prophètes aillent organiser des sacrifices, il n'y avait pas encore le temple. Donc, bah, ils se débrouillaient. Hein. Et donc, de temps en temps, ils allaient dans une ville ou dans une autre, s'il y avait eu un problème, s'il y avait eu un souci, un péché commis ou quelque chose de grave, ils allaient faire un sacrifice. Ou simplement, parfois, pour garder la population en communion avec son Dieu, ils allaient dans certaines villes offrir des sacrifices d'action de grâce, etc., avec les gens de la ville. Donc, ce n'était pas quelque chose de rare. Et c'est sûr que Dieu n'encourage pas Samuel à mentir, mais il ne l'encourage pas non plus à mettre sa tête sur le billot. Il lui dit, écoute, tu fais comme tu fais d'habitude, tu vas faire un sacrifice, tu vas organiser un sacrifice, et là, tu inviteras Jessé et sa famille. Donc, naturellement, Samuel y va, mais je pense qu'il ne devait pas être très très rassuré. Et il va à Bethléem. Et là, on va s'arrêter un petit peu sur Bethléem. Ça vous dit quelque chose quand même, Bethléem ? Eh bien oui, puisque Jésus est de la généalogie de David, c'est pas trop étonnant. Bethléem, c'est 9 km au sud de Jérusalem. Donc pour ceux qui ont la carte d'Israël à peu près en tête. C'est curieux, ça veut dire maison du pain. Et quand Jésus se proclame pain de vie, c'est pas trop étonnant. Hein, maison du pain, d'abord nommée Ephrata. Et puis, c'est une petite ville qui est bâtie sur deux collines en Juda. Au temps de Jacob, on remonte loin là, hein, moins 2000, c'était un petit village. Mais Rachel, donc la femme de Jacob, a été ensevelie tout près de ce village. Pour ceux qui connaissent un peu Caleb, il y a une branche de la famille de Caleb qui s'est installée à Bethléem. Ah, quand même, c'était pas... Hein, il y avait des gens importants dans ce petit village. Et puis, bien sûr... On a fait il y a quelques années la vie de Ruth. Boaz et Ruth se sont mariés là. Ils ont eu leurs enfants, enfin Obed, en tout cas leur fils, qui est devenu le père de Jessé, ou Isaïe, suivant les textes. Hein, souvent, les gens avaient deux prénoms. Et bien sûr, leur arrière-petit-fils, c'est David. Donc, vous voyez, la lignée est claire. Boaz et Ruth, qui ont eu Obed, qui a eu Jessé, qui a eu David. Voilà. Donc, petit village, mais qui a eu des gens très très importants parmi les personnages de la Bible. Et on va s'arrêter un tout petit peu sur ce verset qui m'a frappée. J'ai vu aucun commentaire là-dessus, mais il doit y en avoir certainement. J'ai vu mon roi parmi ses fils. Je me suis dit, mais attends, j'ai vu mon roi parmi ses fils. Comment est-ce que Dieu a pu voir un roi parmi les fils de Jessé ? Il est au présent, si. J'ai vu mon roi parmi ses fils. Et je me suis dit, quand Dieu regarde notre église, soit quand elle est réunie là, ou quand elle est dispersée dans la semaine, c'est toujours l'église, je me demande ce qu'il voit. Alors, nous, on va dire, moi, Dieu ne me voit pas, hein. Je ne fais rien de spécial, je ne suis pas important. Il ne voit rien de particulier. Mais si tu fais fidèlement ce que Dieu te demande, il voit autre chose que ce que tu imagines. Dieu voit parmi nous des tas de choses que certainement nous-mêmes on ne voit pas. Ses ambassadeurs, ça c'est sûr, les ministres de l'Évangile, tous ceux qu'il a préparés depuis longtemps ou qu'il est en train de préparer discrètement, sans que personne s'en rende compte. Ça veut dire que Dieu a une vision pour nous. Il regarde, qu'est-ce que c'était David ? Un petit berger. Il regarde un jeune berger et il voit un roi. Vous voyez que le regard de Dieu n'est pas le nôtre. Il regarde Joseph en train de travailler chez Potiphar, là. Et il voit le futur premier ministre de l'Égypte. Il regarde le jeune Samuel qui dort dans le temple, qui éteint les lampes et ouvre les portes. Et il voit un prophète puissant et un des plus grands leaders d'Israël. Il regarde un persécuteur de l'Église, qui était hargneux, hein, franchement. La Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Et il voit un grand apôtre Paul, un des fondateurs vraiment du christianisme. Il regarde des simples pêcheurs de poissons. Moi, j'aime bien imaginer Pierre, tout en muscles, là, avec une grande bouche. Et il voit des pêcheurs d'hommes. Un peu comme le potier, vous savez, quand il a son paquet d'argile sur le tour. Nous, on voit un paquet d'argile. Lui, il voit un vase. Le sculpteur. C'est fantastique de voir un sculpteur travailler. C'est ahurissant, moi je raffole. Un bloc de marbre ou un bloc de bois. Marbre, ça prend plus de temps. Donc on va dire du bois, ça sera plus facile. Et puis on voit progressivement apparaître un visage, des mains. Le sculpteur, il voit déjà son personnage. Le David de Michel-Ange, une des plus belles sculptures du monde, un bloc de marbre. Mais le sculpteur, lui, voyait ce qu'il allait faire. Et je crois que Dieu, il est pareil avec nous. Alors nous, on a peut-être l'impression qu'on n'est qu'un paquet d'argile, ou un bloc de marbre, ou de bois, mais lui, il voit déjà ce qu'il veut faire de nous. Alors après, ça dépend de nous. Est-ce qu'on va se laisser faire ? Ou est-ce qu'on va dire non, je ne veux pas perdre ce bout de bois. Je veux rester bien, bien carré, là. Je ne veux pas bouger. Bon. Mais lui, il voit déjà ce qu'il veut. Il a une vision pour nous. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Alors, on va se demander qu'est-ce qu'il faisait son roi. Et là, je trouve que c'est quand même comique. J'ai vu mon roi parmi ses fils. Mais il était tellement peu important que son père ne va même pas l'inviter à manger avec le prophète. Pour un futur roi, hein, ça commence mal. C'est encore pire. Quand Samuel demande à Jessé de lui présenter ses fils pour les consacrer avant le sacrifice, il s'agissait de nettoyer ses vêtements, de se laver. Enfin, il y avait tout un tas de rites, hein, qui voulaient dire qu'on se mettait à part pour Dieu, qu'il y avait un sens. Eh ben, c'est Samuel qui est obligé de demander « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» On va lire ce texte. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Éliab, à coup sûr, le Seigneur a mis devant lui l'homme de son onction. Bah, lui, il n'avait pas le même regard que Dieu, tout grand prophète qu'il était. Hein. Comme quoi, hein. N'en voulons pas trop aux prophètes. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur voit au cœur. Ah, c'est mon verset préféré. À l'école, tous mes élèves le savaient par cœur parce que je trouve que ça donne une tellement bonne image de Dieu. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, donc deuxième fils. Samuel dit, le Seigneur n'a pas choisi celui-là non plus. Jessé fit passer Shama et Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Jessé, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Et là, j'aime bien Samuel, au lieu de se dire, bah, le Seigneur s'est trompé, première réaction chez nous, hein. Mais lui, il est sûr que le Seigneur ne s'est pas trompé, donc il se dit, il y a quelque chose. N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et Jessé répond, il reste encore le petit, j'aime bien d'ailleurs, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau, il est à son boulot, hein, faut qu'il y reste. Alors Samuel dit à Jessé, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas, donc c'est pour le repas, hein, après le sacrifice, il y avait le repas, nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Jessé l'envoya chercher. Or, il était, alors certaines traductions disent roux, d'autres disent blond, peu importe. Il avait de beaux yeux, une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur, l'esprit du Seigneur, s'empara de David. Et quant à Samuel, il s'en alla à Rama, le petit. Le petit, il fait paître le troupeau. Alors, si je comprends bien, d'après ce que j'ai lu, les bergers, c'était la classe sociale la plus basse. Ça, c'est réglé. C'est pour ça qu'au moment de la naissance de Jésus, il y a à la fois les rois, mages, les astrologues, etc., qui viennent apporter des cadeaux de prix, et puis les petits bergers du coin, donc les plus humbles, qui viennent adorer le Seigneur. Alors le petit, on sent le mépris de toute la famille, le mépris de ses frères d'ailleurs, qui va ressortir au moment de l'histoire de Goliath, on va le voir, hein. Le petit, vraiment. Et le petit, d'ailleurs, n'abandonne pas son travail pour voir ce qui se passe au village. Vous savez, le téléphone arabe marchait très bien. Et je suis sûre que quelqu'un est allé lui dire dans les champs, « Ah ben là, il y a le prophète qui est arrivé au village. Et puis, ils vont faire un grand sacrifice. Et ils vont faire un repas. Et ton père est invité, etc. » Mais lui, il fait son boulot. Il n'abandonne pas son troupeau. Il faut que quelqu'un aille le chercher et probablement le remplacer. Sinon, il ne vient pas. Alors, comment ce petit berger avait-il pu attirer le regard de Dieu? Et comment Dieu avait pu dire, j'ai vu mon roi? Imaginez que Dieu vous regarde, là où vous en êtes, et il vous dit quelque chose de particulier. J'ai vu, je ne sais pas ce que Dieu a comme plan pour vous. Alors, vous allez me dire, c'est extraordinaire, c'est presque magique. Non, ce n'est pas magique. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire ce matin. C'est curieux d'ailleurs parce que cette histoire, je l'avais préparée il y a longtemps et elle tombe parfaitement bien avec le message d'aujourd'hui parce que il y a le miracle de Dieu, mais ce n'est pas magique. C'est compliqué ce que je dis là, vous allez voir pourquoi. Alors, si on regarde le psaume 23 qui a été écrit par David, il décrit très bien le travail du berger. Le berger devait veiller à ce que ses moutons ne manquent de rien. Premier verset. À ce qu'ils trouvent de l'eau calme. Bah oui, parce que les torrents, c'est bien, mais ça peut vous emporter un petit mouton, hein. À ce qu'ils se reposent, qu'ils retrouvent des forces après les longues marches sous le soleil. À ce qu'ils trouvent des vers pâturages. Et puis en Israël, les vers pâturages, c'était pas trop commun, donc il fallait les chercher. Il devait veiller à protéger son troupeau avec son bâton. Donc se battre contre les bêtes sauvages. Il devait les diriger ou parfois les récupérer avec sa houlette, donc le bâton qui est arrondi au bout, il les rattrapait comme ça. Donc si vous avez le psaume en tête, vous voyez où ça va. Il devait veiller à ce qu'elle n'ait pas peur dans les passages dangereux et qu'elle ait tout en abondance. On ne va pas mettre les moutons au régime. Le berger, normalement, alors vous savez, quand Samuel était en CM2, je crois, ou CM1, on a fait une sortie aux bergeries de Rambouillet. Et j'étais... Samuel, lui. à la bergerie de Rambouillet, on nous a tout expliqué sur les moutons pendant une semaine. J'ai passé une semaine avec les enfants de cette classe. C'est la bergerie nationale, oui, à Rambouillet. Et là, on nous a tout expliqué, comment s'occuper des moutons, on nous a fait des démonstrations de tonte. Enfin, les enfants avaient le droit de donner le biberon aux agneaux, d'ailleurs, les filles étaient ravies. Bon. Et on nous a expliqué qu'un berger sait soigner les maladies de ses moutons. Il sait éloigner les insectes. Ouais, parce qu'il y a un insecte particulièrement dégoûtant qui rentre par le nez et qui va au cerveau et qui finit par tuer le mouton. Quelqu'un a fait l'analogie avec les mauvaises pensées qui nous détruisent. Pas faux. Donc il faut éloigner les insectes, ils leur mettent des produits sur le museau. Bon, il faut réparer les pattes cassées, ce qui arrive de temps en temps. Il faut soigner les blessures, accoucher les brebis quand il y a un problème, surveiller les fugueuses. Il y a toujours le mouton qui a envie de se tailler. C'est pas courant, mais il y en a. Et puis il y a un travail très physique, c'est la tonte. Même les gars les plus solides, ils transpirent. Hein, parce que, bon, maintenant, ils ont des bons appareils, mais il faut voir, il y a des concours de tonte, hein, celui qui va aller le plus vite. Et quand elle est bien faite, la tonte, vous pouvez soulever la laine, elle se tient, toutes les fibres se tiennent les unes sur les autres, et c'est comme si vous aviez enlevé toute la peau, c'est horrible. Les poils se tiennent. Et ça fait vraiment une toison complète, quand c'est bien fait. On est très savants sur les moutons. Oui, je vous souviens quelques minutes, oui, je sais plus, c'est 3 ou 4 minutes, c'est impressionnant. Mais bon, autrefois, avec c'était des sortes de ciseaux en métal, là, c'était pas évident. Donc, vous voyez que le berger, finalement, il était peut-être pas très bien considéré, mais il savait faire beaucoup de choses. Il devait être très attentif, très consciencieux dans son travail. Moi, je pense souvent que le travail du berger, et là, je suis sûre que toutes les femmes vont être d'accord avec moi, c'est un peu comme le travail d'une mère de famille, 24 heures sur 24. 24 heures de service sur 24. Il dort auprès de ses moutons, en plus. Il n'a même pas le répit de la nuit. Souvent, il prenait des pierres et faisait une sorte de mini-enclos pour déterminer un petit peu. Il les gardait, évidemment, hein, parce qu'il ne les refaisait pas à chaque fois. Et puis, il faisait une porte où il ne mettait pas de pierre et il se couchait en travers. Et les moutons comprenaient très bien qu'il ne fallait pas sortir de là. Il se couchait en travers. Et s'il y a une bête sauvage qui voulait rentrer, évidemment, il était prêt. Toujours prêt. Parfois, il allait dans des grottes. Du coup, il devait bien connaître le terrain, savoir prévoir le temps aussi, s'il allait avoir un orage ou de la pluie. Alors, les bergers sont souvent des jeunes gens, d'un rang social assez bas. D'ailleurs, vous vous souvenez, Jacob, quand il a travaillé comme berger pour son beau-père, il en avait marre. Au bout de 14 ans, il s'est dit, c'est bon, hein. Maintenant, je voudrais mon troupeau à moi. Parce que travailler comme berger pour un autre... Un berger compétent et consciencieux faisait multiplier son troupeau. C'était le cas de Jacob, d'ailleurs, hein. Son beau-père s'était super enrichi parce que, oh là là, il avait tellement bien, il s'était tellement débrouillé que toutes les brebis avaient des petits, s'en occupaient bien, du coup ça se reproduisait. Et ses qualités, c'est la vaillance, le courage, la force, la vigilance et l'observation. Les mauvais bergers, ça existe aussi. Bon, ils étaient paresseux, hein, ils fermaient les yeux, s'allongeaient dans l'herbe et puis vaille que vaille. Ils étaient étourdis, égoïstes. Pourvu que moi je me repose, bon allez. Mais les bons bergers, ils avaient cette conscience, ce courage, cette vigilance. Et puis c'est pas fini. Il fallait une bonne connaissance du terrain, parce qu'il y avait des lieux dangereux. Hein. Il fallait savoir où étaient les lieux humides, les grottes, les abris des rochers, les herbes pour soigner et les herbes qui rendent malades. Vous savez qu'il y a des herbes qui rendent malades, même les animaux. Ma voisine a un cheval et. Pauvre petite bête. L'autre fois, on voit son cheval, il se gratte comme ça. Il a un tic ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a mangé une herbe, alors je ne sais plus laquelle, qui donne une maladie neurologique. Et c'est effectivement une sorte de tic. Vous le voyez comme ça, cette pauvre bête? Ça va un petit peu mieux. Vous voyez, il y a des herbes. Et normalement, quand on est dans ces métiers-là, on connaît ces herbes-là. On regarde le champ avant d'y mettre les animaux. Et les bergers devaient savoir ça aussi. Les maladies, les soins, etc. La connaissance aussi des animaux sauvages, comment en venir à bout, etc. Et c'est pas fini. Il doit parler à ses moutons. Ben tiens, en plus. Les moutons doivent connaître sa voix. Alors, sœur Marie-Paul, son papa avait un troupeau de moutons dans les Landes au sud, enfin pas loin des Pyrénées. Et tous les troupeaux partaient ensemble pour la transhumance dans les montagnes, puis ils rentraient à l'automne. Hein. Et elle avait élevé un petit agneau qui avait perdu sa maman. Et alors elle disait à son papa, comment je vais faire pour le récupérer? Regarde, il y en a plein là, c'est tous les troupeaux du village qui rentrent. Son père lui dit, t'inquiète pas, tu n'auras juste à l'appeler. Mais il va pas m'entendre avec toutes ces petites clochettes et puis ce bruit, le bruit des pattes et les clameurs et les gens qui crient autour. Quand ils rentrent de transhumance, c'est impressionnant, hein, c'est très beau à voir. Il dit, t'inquiète pas, tu l'appelleras, c'est tout. Elle a crié de toutes ses forces le nom de son mouton. Et quelques minutes après, le mouton est venu droit vers elle. Il la connaissait. Les moutons ont cette capacité d'entendre la voix. On devrait aussi, nous, en tant que moutons, entendre la voix de notre berger. Donc voilà, tout ça, c'était le travail du berger. Alors, on pouvait faire ce travail comme un mercenaire. Je fais juste ce qu'il faut. Je n'ai pas dit un fonctionnaire, je dis un mercenaire. Je fais juste ce qu'il faut. J'en fais pas plus. Si Christelle était là, elle m'aurait sauté dessus. On fait juste ce qu'il faut et puis zut. Hein. Mais un bon berger, c'était quelqu'un de précieux. On lui confiait en quelque sorte toute sa fortune. Quand on confiait son troupeau à un berger, on lui confiait sa fortune. C'était pas seulement la viande, le lait, la laine. C'était vraiment la fortune des gens, c'était leur bête. Alors, c'est même pas tout pour notre petit berger David. Je crois qu'il remplissait ses conditions, parce que quand vous lisez le psaume 23, vous voyez qu'il les remplissait bien. Mais en lisant les psaumes, on s'aperçoit aussi qu'il profitait des moments calmes. Alors vous allez me dire, pour rêver, se reposer. Rêver qu'il est un homme important, qui a des grands troupeaux et qu'il va avoir plein d'argent. Non. David jouait de la musique, il s'exerçait. Il composait des chants. C'est des chants qu'on chante encore, on en a chanté un ce matin. C'était le premier, je crois d'ailleurs, hein, David, psaume 23. Des chants qu'on chante encore 3000 ans plus tard. Donc il y avait quelque chose dedans. Dommage, on n'a plus la musique, hein, mais on a les textes. Il adorait Dieu, qu'il considérait comme son berger. Et ce n'est pas tout. Ce n'était pas seulement un contemplatif, et un musicien, et un poète. Parce que vous auriez pu dire, il est un peu barré, quoi. Hein. Parfois, c'est un peu l'impression qu'ils donnent, les bergers. Je ne sais pas si vous en avez rencontré, mais ils ont l'air d'être un peu dans un autre monde. Mais bon. Et ben, il ne s'arrêtait pas là, lui. Il était vachement équilibré, je trouve, de temps en temps. Il s'exerçait avec sa fronde. Et j'ai vu que les pierres de la fronde peuvent atteindre des vitesses monumentales. Et il s'exerçait, il paraît que les meilleurs, il paraît qu'il y a un club de ça quelque part, ils peuvent atteindre une cible assez lointaine et très précisément. Donc ça demandait de l'exercice. Mais il avait du temps. Et au lieu de rêver qu'un jour il serait peut-être un grand homme avec plein d'or et d'argent, d'accord, il adorait Dieu, il faisait de la musique, c'était un poète, mais en plus, il était actif et il s'exerçait avec sa fronde. Ce qui fait que quand un lion de montagne ou une bête quelconque venait s'attaquer à son troupeau, il était prêt. Il était prêt. Parce que dans ces moments creux, il s'exerçait. Je suis sûre qu'il devait s'amuser à dire, tiens, ce rocher là-bas, je vais viser ça. Ah, je ne suis pas arrivée, alors je recommence. Il fait ça pendant des années. Il était bon, hein? Et c'est là que je vais rejoindre un petit peu le verset de notre histoire de ce matin. L'enfant laisse voir par sa conduite, etc. Ouais. Dieu pouvait voir un roi là-dedans. Hein. Maintenant qu'on regarde un peu qui était ce petit berger, Dieu pouvait y voir un roi. Un roi en embryon, certes. C'est comme quand je vois certaines chenilles, celles qui sont jaunes avec des points noirs, c'est mes préférées. Je dis, waouh, c'est mon papillon préféré. Vous seriez à côté de moi, vous diriez, moi je vois qu'un vert. Mais non, c'est ma chenille préférée qui donne mon papillon préféré. C'est ce papillon qui a les petites queues là, sur le côté. Ils sont beaux comme tout. Moi, je vois un papillon, parce que je connais. Et Dieu voyait déjà. Toutes les qualités étaient réunies pour faire un bon roi. Mais il fallait simplement qu'elles grandissent, qu'elles évoluent. Et Dieu est pareil chez nous. Alors vous allez me dire, moi, j'ai rien. Ah, ben, c'est pas vrai. Parce que la parabole des talents dit qu'on en a au moins un talent. Mais que souvent, ceux qui n'en ont qu'un, ils prennent plaisir à l'enterrer. C'est dommage. David avait peut-être le seul talent d'être un bon berger. Enfin, je pense qu'il y en avait d'autres. Il y avait la musique, etc. Mais il l'a fait fructifier, ce talent. Alors, faisons pas comme celui qui en avait un et puis qui l'a enterré. Pensez que le talent que Dieu vous a donné, c'est peut-être celui qui permet à Dieu de voir où vous allez aller. David, même petit et méprisé, d'ailleurs je crois qu'il le dit dans un de ses psaumes, il a fleuri là où il était planté. Et là, j'ai entendu cette expression chez mon groupe de musique favori. Ils disent ça parce que beaucoup de gens, comme ils sont très célèbres aux États-Unis, les Gather, on leur dit souvent, mais comment vous avez fait pour atteindre un tel niveau de célébrité, etc. Et la réponse qu'ils donnent, c'est essayez de fleurir là où vous êtes planté. Ah. Et un de leurs chanteurs, qui est aussi maintenant très très célèbre, il dit ceci, et on lui dit, mais comment est-ce que tu as fait, c'est Guy Penrod, comment est-ce que tu as fait pour atteindre un tel niveau de musique, de célébrité, etc. Eh bien écoutez, ça a commencé parce que mon père était un petit pasteur d'une toute petite église, et puis ben, on n'avait pas de chanteur, on n'avait rien. Alors comme je ne chantais pas trop mal, il me demandait de chanter à chaque réunion qu'on faisait, chaque culte. Je dis, c'était pas forcément très drôle, c'était des vieux chants et tout. Mais je l'ai fait. Il l'a fait consciencieusement. Pendant des années. Depuis ses 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il a chanté le chant que son papa lui demandait devant un auditoire de, je sais pas, 20, 30 personnes. Il a fait ça pendant des années, sans rien demander, sans rien rouspéter. Et puis après, il a fait son chemin. Un jour, il y a eu un invité en son église qui a dit, mais ce jeune homme, il avait grandi, est-ce que je pourrais l'emmener avec moi pour une campagne d'évangélisation au travers de différentes villes? Et il a commencé à être connu. Voilà comment il a atterri chez les Gather, etc. Mais c'est des histoires qui ne sont pas magiques. C'est pas magique. On ne devient pas un homme célèbre comme ça. Il y a eu tout ce temps de fidélité, de patience. Comme je racontais tout à l'heure à propos de Bill Gates. Persévérance, la patience. Et la Bible dit bien ça quand elle dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai de plus grandes. » Et quand Dieu dit des plus grandes choses, je ne pense pas célébrité et gloire. Attention. Célébrité et gloire, c'est ce qui intéresse les humains. C'est notre nature humaine. « Seigneur, tu vas me permettre de faire des grandes choses, je vais être célèbre, tout le monde va me connaître, et je vais vendre des CD, etc. » Non. Quand Dieu dit des grandes choses, c'est les choses qui font avancer son royaume. Des choses qui font du bien aux autres. Les grandes choses, c'est des choses qui aident les autres. Vous savez ce que Jésus a dit? Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert les autres. C'est celui qui est au service des autres. Donc attention quand, c'est pas que je veux décourager les choses, mais être célèbre, c'est bien. Mais ça demande une telle humilité que c'est pas facile à vivre. Si Dieu vous appelle à être célèbre, ben, il faudra beaucoup travailler l'humilité parce que c'est pas simple. Vous savez, les gens célèbres qui sont bourrés d'orgueil, ça fait vomir. Et je pense pas que si vous avez envie d'être célèbre, vous avez envie de faire vomir les gens. Donc il faut cultiver l'humilité. Donc David faisait les choses, des petites choses, il les faisait consciencieusement. Et sans le savoir, il s'est préparé au travail de roi. Sans le savoir, avec toutes ses qualités. Alors moi j'ai réfléchi, parce que j'aime bien m'imaginer comment ça aurait pu être différemment. Il aurait pu rêver de grandes choses, coucher sur l'herbe. Ça je l'ai déjà dit. Ça aurait pu, hein. Oh, un jour je serai riche, et puis les gens ils auront un peu de considération pour moi, ça changera. Non, il aurait pu attendre en ronchonnant. Ça, nous, Français, on aime bien ça. En ronchonnant. J'en ai marre de ces bestiaux. Vous avez vu la tête qu'ils ont, ces moutons? Regardez comme ils ont l'air idiots. Mais mettez-vous nez à nez avec ces bestiaux. C'est pas possible, quoi. Et je suis là toute la journée. Et en plus, ça pue, les moutons. Je me souviens qu'avec la classe de Samuel, on les caressait, les moutons, on avait les mains toutes grises et grasses. C'est le suin, ça s'appelle. Oh, c'est dégoûtant, puis ça sent mauvais. Il aurait pu râler, mais il avait de quoi râler. Puis encore cette bourrique-là qui est partie, je suis obligée de lui courir derrière. Et puis, ah, puis celle-ci, elle trouve le moment d'accoucher, au moment où moi je m'endors. Et puis, tu sais, les bébés qui pleurent juste au moment où on s'endort. On râle, hein, mais bon. Il aurait pu ronchonner tout le temps et puis essayer d'en faire le moins possible. Il aurait pu agir passivement en attendant une promotion miraculeuse. Ouh, un jour. Il aurait pu se ronger les seins. Ouais, mes frères, ils me méprisent. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Tout le monde me dit que Dieu existe. Et moi, je suis là derrière mes moutons et je m'embête. Un jeune homme comme moi, on pourrait quand même, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis là. Il y en a marre. Ma famille, elle n'a rien à faire de moi. C'est pas possible. Et ceux-là, ils ont des invités et tout. Pensez-vous qu'ils m'inviteraient? Même pas. Du coup, il aurait pu négliger son travail, mépriser ses bêtes. Enfin, vous pouvez imaginer plein de scénarios, hein. Il aurait pu réagir comme ça. Il avait de quoi. Regardez une fois un mouton dans les yeux. Vous comprendrez ce que je dirais. Mon voisin, il en a 6. J'aime bien les regarder en passant. Les filles aussi, elles aiment bien les regarder. Mais quand je les vois de près, puis je les regarde comme ça, misère que ça a l'air bête, un mouton. Et quand je pense que Dieu nous a comparés à des moutons. Mais vous savez, autrefois, dans les écoles, on enseignait à Gekwadagis, on écrivait ça, au temps où les gens savaient encore un peu de latin, « Fais bien ce que tu fais ». Et je pense que David, c'était ça. Il faisait bien ce qu'il faisait. Et vous savez, on remarque toujours les personnes qui font consciencieusement leur travail, surtout quand c'est un travail bête. Je ne sais pas si j'ai 3 minutes pour vous dire comment je suis devenue adjointe au maire. Vous allez me dire, oh là là, les gens ont remarqué comme j'étais brillante. Non, pas du tout. Désolée. Non. Quand on habitait dans notre village, je suis venue à la mairie, je ne sais plus pourquoi, et j'ai vu que le maire était en train d'emballer les cadeaux de Noël. À l'époque, on le fait toujours d'ailleurs, on offre des cadeaux aux enfants de la commune, une commune civilisée, et elle les emballait et elle mettait des rubans. Il y avait une centaine d'enfants. Et je suis rentrée dans son bureau pour avoir je ne sais plus quel papier. Et je me suis permis de lui dire, mais enfin, madame, vous avez autre chose à faire. Enfin, dans une commune comme ça, le maire, il fait tout. Donc, je dis, non, ce n'est pas possible. Vous ne voulez pas que je vous donne un coup de main? Vous avez tellement de travail à côté. Je trouve que j'avais un peu de temps. Quand mes parents venaient, ils gardaient les enfants. J'avais un petit peu de temps. Donc, je suis allée 2 ou 3 Noëls, je crois, emballer les cadeaux pour elle. Au début, elle le faisait avec moi. Puis après, elle m'a laissé faire. Et je le faisais juste pour lui rendre service. J'ai quand même dans une mairie de campagne, si on ne peut pas s'entraider un petit peu. Hein. Et puis c'était marrant d'emballer des cadeaux, moi, ça, j'aimais bien. Et 2 ans et demi après, à peu près, elle est venue. Elle a demandé un rendez-vous à la maison. Et bien sûr, je me dis, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'on a fait de travers? Et puis elle m'a parlé un petit peu, puis elle m'a dit, voilà, il va y avoir des élections. J'avais même pas remarqué. Et elle me dit, ben écoutez, est-ce que vous aimeriez bien vous présenter avec moi? Alors je dis, écoutez, attention, je suis chrétienne, moi je fais pas de politique, et puis s'il y a des choses, des magouilles ou des choses comme ça, ça sera niette. Ah, mais c'est ça que je veux. Je dis, dans ce cas-là, c'est d'accord. Et puis elle m'a rien dit de plus. Les élections sont faites, j'ai été élue puisqu'elle était bien vue, donc j'étais sur sa liste. Et la première réunion, elle m'a dit, j'ai besoin d'une adjointe. C'est quoi le travail d'adjointe? J'avais pas la moindre idée. Et elle a fait voter le conseil, elle dit voilà, j'étais votée adjointe à l'unanimité, je me suis retrouvée adjointe comme ça, parachutée. Heureusement qu'il y avait la maman d'Evelyne qui était secrétaire de mairie et qui m'a appris mon travail. Mais je pense que j'ai appris quelque chose aussi ce jour-là, c'est que les gens ne sont pas idiots et qu'ils regardent les petites choses. Elle m'a jugée sur une petite chose. Elle n'a pas regardé ce que j'avais fait des choses très bien dans ma vie. Non, elle a regardé les petites choses. Et je crois qu'il ne faut pas oublier les petites choses. Ce qu'on fait nous prépare à ce à quoi Dieu nous appelle. Alors je répète, ce qu'on fait aujourd'hui nous prépare à ce à quoi Dieu nous appelle. Et particulièrement les jeunes. Mais c'est vrai aussi à tout âge. Parce qu'on peut rentrer dans notre destinée à 60 ans, 70 ans, ce n'est pas grave. Pour Dieu, ce n'est pas ça l'important. C'est l'efficacité et la fidélité qui comptent. Mais pour les jeunes, c'est d'autant plus important. Ce que vous faites aujourd'hui, la façon dont vous le faites, c'est ça qui va décider de la vision de Dieu pour vous. Dieu va voir en vous ce que vous allez devenir. Si vous le voulez bien, parce que c'est jamais une obligation. Il y a le témoignage de Christelle aussi, hein, c'est pareil. Comment Dieu l'a conduite à prendre ce travail de sécurité, hein, parce qu'elle l'avait fait à l'église, tout simplement. Elle pouvait mettre sur son CV qu'elle avait aidé l'église à travailler sur la sécurité. Donc elle connaissait les textes de sécurité des bâtiments publics. Et elle a eu son travail. Les petites choses. La fidélité dans les petites choses. Et je sais que vous auriez des tas d'histoires à raconter là-dessus. Dieu a vu son roi dans le cœur d'un petit berger. Il a vu son roi dans le sens des responsabilités qu'il avait. Il a vu son roi dans le courage face aux animaux sauvages. Il a vu son roi dans son habileté à la fronde. Il a vu son roi surtout dans son adoration, ses chants de louange, ses poèmes, sa musique. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu vois dans mon cœur ? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui qui va me permettre d'entrer dans ma destinée ? Et si vous n'êtes pas très sûr, bah prenez un petit peu de temps avec le Seigneur. Prenez du temps, demandez-lui. Et réfléchissez aussi, parce que je pense que c'est important, de dire Seigneur, qu'est-ce que je dois changer pour que tu puisses voir en moi ce qui va me permettre d'entrer dans ma destinée, ce qui va me permettre de faire avancer les choses pour les autres, faire avancer les choses dans le royaume de Dieu. Et surtout, il ne faut pas négliger les petites choses. Les choses du quotidien qui aujourd'hui vous pompent l'air, là je pense aux jeunes, les tas de choses qui nous pompent l'air quand on est jeune, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, les tas de choses qui nous pompent l'air. Mais dites-vous bien qu'il y a des tas de choses qui devaient pomper l'air de David. Mais c'est ça qui a fait de lui un bon roi. Et je cite souvent ce verset, le jeune homme qui... il est bon pour le jeune garçon de porter le joug dans sa jeunesse. Pas drôle, hein ? Tous les trucs en kikinant qui vous pèsent, là, comme un joug sur vos épaules, c'est ça qui va faire de vous un homme, une femme solide. C'est pas en vous mettant dans du coton et de la guimauve que vous deviendrez des hommes solides. Donc, je vous plains, mais tenez bon.